l'univers. À ce jour, nous connaissons seulement 5% de la matière qu'il compose. Et selon les hypothèses actuelles des scientifiques, les 95% inconnus seraient constitués de matière noire et d'énergie sombre dont on ne connaît pas les vraies natures. C'est pourtant cette énergie sombre qui expliquerait l'accélération de l'expansion de l'univers, découverte en 1998. Et si on cherchait à en savoir plus? L'Agence spatiale européenne a lancé une mission pour tenter de découvrir l'invisible, la mission Euclide. Euclide, c'est deux instruments ultra-performants, dont la plus grande caméra infrarouge jamais lancée dans l'espace, qui donnera des mesures d'une précision inégalée à ce jour, montée et testée ici, au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Euclide, c'est la coopération de plus de 220 laboratoires, dans 16 pays, pour plus de 6 ans de mission du satellite dans l'espace, et plus de 170 millions de gigaoctets de données à traiter. Euclide, c'est ici, et c'est là-bas. Décollage en 2022.
En anglais, on dirait Understanding the Dark Side of the Universe.
Understanding the Dark Side of the Universe.
Euclide.
C'est une aventure humaine qui est unique, hein. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs dans le monde. Ouais, il y a l'excitation de la découverte et puis d'amener sa contribution à toute une aventure humaine.
Euclide.
Quelque chose qui interpelle, quoi.
Mission Euclide.
Le métier à tisser l'univers.
Qu'est-ce que c'est qu'un grisme?
Grisme, c'est pour grating and prisms. Donc c'est un anglicisme. Parce que ça, c'est pas un mot en français. Et donc, c'est parce qu'un grisme, c'est la réunion d'un prisme optique avec un réseau de dispersion.
Christelle Rossin, ingénieure en mécanique. Et au sein d'Euclide, j'étais architecte mécanothermique. Architecte mécanothermique, c'est, on va dire, la personne qui gère toute la partie structure mécanique autour du grisme, en termes de design, de conception, suivi de fabrication, mais également une petite partie du côté assemblage, parce que là, le grisme était collé dans un anneau. Et il y avait également une grosse activité de test, suivi de tests en vibration et également thermique.
Alors bonjour, moi je suis Anne Costi, je suis ingénieure de recherche en optique. Donc j'ai été pour le grisme responsable produit, donc c'est-à-dire que j'étais la personne qui faisait que tous les autres travaillaient, si je puis dire, dans le sens où j'étais responsable de la livraison de ce composant et de faire en sorte que toutes les activités puissent se faire.
Moi c'est Amandine Kaya, je travaille en tant qu'ingénieure optique au LAM depuis 7 ans. Sur les grismes, j'étais responsable des performances optiques. D'abord de chaque partie, puisqu'on verra qu'il y a trois parties optiques dans ce composant qui ont été réalisées par trois industriels différents. Donc chacune a dû déjà être validée indépendamment des autres. Et réunir l'ensemble a été un gros travail. Mettre en place les bandes mesures qui permettent de valider, comme disait Anne, les spécifications. Donc avec des tolérances, donc des droits à l'erreur très faibles qui nous étaient accordés. On a dû négocier avec justement l'architecte optique pour lui dire, selon les prototypes qu'on a pu réaliser, on avait besoin d'un peu plus de marge sur certaines caractéristiques, par exemple. Donc moi, j'étais plus dans le côté vraiment test et vérification optique du composant.
Le fonctionnement du grisme est à froid, à 100 Kelvin, donc à peu près moins 170 degrés Celsius, grosso modo. Et effectivement, on décolle à température ambiante, 300 Kelvin. Donc, du coup, il faut vérifier que le composant ne va pas subir de dommages à cause de ces cyclages, à cause de ces changements de température. On a utilisé un matériau dont le coefficient de dilatation était proche de celui du verre qui était utilisé pour le composant optique. Du coup, on a utilisé un matériau qui s'appelle de l'invar, qui a un coefficient de dilatation qui est très très faible, c'est-à-dire que s'il est deltas de température sont très élevés, il va très très peu bouger. C'est de l'ordre de, je ne sais plus exactement, mais ça doit être du 1 à 2, 10-6 millimètre par degré.
Si on faisait de la photométrie, on aurait eu besoin de deux détecteurs. Un détecteur là où il y aurait eu les photons qui arrivaient, les images des galaxies, et un détecteur pour récupérer nos spectres. Donc ça, c'était pas terrible, on voulait un petit instrument. Donc en fait, on met un réseau pour pouvoir en fait quelque part redresser les spectres et faire que les spectres arrivent sur la même ligne de visée que les images du détecteur en fait. Donc comme ça, ça permet d'avoir qu'un seul détecteur et aussi un design optique plus compact.
Donc c'est un prisme qui ne détourne pas la lumière en fait, qui permet que tout reste droit.
Alors il y a cet aspect de directivité du faisceau. Et aussi, il y a un autre aspect, c'est la dispersion. Donc en fait, le prisme et le réseau travaillent ensemble aussi, parce que le prisme aura une faible résolution, donc va peu disperser la lumière, la décomposer en gros morceaux, on va dire, alors que le réseau va faire des spectres beaucoup plus étalés, et donc où on va pouvoir... mieux mesurer chaque longueur d'onde. On aura une meilleure finesse, donc c'est ce qu'on appelle la résolution spectrale en fait.
Alors avec le grisme, avec cette lumière infrarouge, on va regarder le spectre d'émission d'une molécule qui s'appelle l'hydrogène alpha et qui est émis par les galaxies qui veulent regarder pour l'énergie et la matière noire. Alors après, je ne saurais pas en dire plus. Hein. Et en fait, pour ce qu'ils veulent observer pour Euclid, c'est le décalé dans l'infrarouge. Donc il faut qu'ils regardent dans cette zone, dans cette fenêtre optique en fait. Et c'est pour ça qu'ils travaillent dans l'infrarouge.
Et ça, c'est ce qui permet de déterminer la distance et l'âge des objets qu'on observe.
Exactement. À quelle distance ils se trouvent de nous et donc quel âge ils ont par rapport à nous.
L'objectif de NISP, c'est, je dis souvent ça pour imaginer un peu, c'est de reconstruire des portions d'univers en 3D. Donc en gros, avec le mode imagerie photométrie, ça donne la position sur le ciel de chaque galaxie. Mais on ne sait pas à quelle distance elle se trouve, on a juste une carte en deux dimensions. Et la partie spectroscopie ajoute cette profondeur, cette troisième dimension pour vraiment pouvoir placer l'objet dans l'espace. Donc on reconstruit comme ça des portions d'univers de matière connue, baryonique, classique, pour, d'après cette distribution de matière classique, en déduire où se trouve la matière noire et l'énergie sombre Mais on est obligé de passer par le moyen d'observation de matière classique. On l'étudie, puisque à noir et sombre, on voit bien qu'on ne voit rien. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand même, là où on fait cet instrument-là spécifique, pour cette gamme spectrale infrarouge, si on veut observer l'ultraviolet, l'instrument, il n'a rien à voir. C'est des types de détecteurs différents, c'est des verres différents pour faire les lentilles ou les filtres ou les grismes. Chaque domaine spectral, chaque couleur de lumière a ses spécificités en termes de besoins de matériel, quoi. Faire des réseaux et des grismes aux lames, en fait, c'est vraiment un héritage. Donc c'est vraiment un savoir-faire particulier qui a... Que ce soit en termes de fabrication, à qui demander de fabriquer, et les moyens de test, surtout comment on teste pour valider que le composant a bien les performances requises. Quoi. Il y a plusieurs paramètres clés à tester, donc la qualité optique des faces d'abord. Ça c'est très important puisque la lumière va traverser ses composants et il ne faut pas qu'elle soit abîmée à la traversée de ce composant. Donc on va vérifier que nos faces sont... Alors, il y a une des faces qui est plane sur ce composant avec le réseau dessus. L'autre face, elle est courbe avec un grand rayon de courbure, mais qu'il faut vérifier aussi. Parce qu'elle a un petit... Le grisme a aussi un peu une fonction de lentille légère. Donc, pour mesurer ces composants, en fait, on les compare à un calibre par interférométrie. Alors, vas-y, explique l'interférométrie. Donc, un interféromètre... c'est un instrument qui permet d'obtenir un faisceau monochromatique, donc à une seule couleur. En l'occurrence, nous, on utilise un laser rouge. Un faisceau très très propre, vraiment quasi parfait. On va éclairer un calibre avec ce faisceau qui va réfléchir une partie de la lumière. Ce sera notre faisceau de référence. Une autre partie de la lumière va traverser ce calibre, se réfléchir sur notre composant. Et donc, on obtiendra une interférence entre le faisceau de référence et le faisceau réfléchi par notre composant qui nous montrera les lignes de niveau, disons les défauts, de notre composant par rapport à la référence qu'on souhaite atteindre. C'est la façon dont on vérifie la qualité optique des faces. Il y a un autre aspect sur ces faces, c'est la rugosité. Si les faces sont trop rugueuses, la lumière va être diffusée. Donc, on va avoir une image avec certes des spectres, mais le fond va être important. Donc, on va pas avoir tous nos objets, toutes nos galaxies. Donc ça, il est important que ce soit aussi très très lisse. Donc pour cela, on utilise un microscope particulier pour la vérification. Et troisième paramètre important, c'est de vérifier la bande passante de notre grisme. Est-ce que c'est la bonne lumière infrarouge qui passe à travers ?
This is dedicated to a Mr. Bream, a Mr. Reed, a Mr. Piney, and a Mr. Mood.
Donc là, pour cela, on utilise un spectrophotomètre qui permet de mesurer... Des lumières depuis l'UV, l'ultraviolet, jusqu'à l'infrarouge. Et donc, simplement, on fait passer cette lumière-là à travers le composant et on vérifie que c'est bien les bonnes lumières qui passent.
I fit rock bottom, ooh, now I'm running away. I've made it, babe. Think what your lover would say. Think in a brotherly way. See, girl, I won't say until it finds me.
C'est près la lune, c'est 380 000.
C'est à côté.
One time.
strange. Distortions arrange as sight loses its range, as everyone's perspective begins to change. Ooh, I'm the same. Just something to blame, another thing wrong with the game. And watch me as I descend to shame.
J'avais envie de comprendre les choses quand j'étais plus jeune, donc je me suis entre guillemets naturellement dirigée vers un métier d'ingénieur. Mon premier poste m'a amenée à travailler au CNRS à Grenoble, dans un labo qui cette fois lui travaille pour l'INDP3, l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules. Donc j'ai beaucoup interagi avec le CERN, le Centre Européen de Recherche Nucléaire, où il y a un grand accélérateur de particules. Et j'ai été amenée à déménager sur Marseille pour raisons, on va dire, familiales et puis, je dirais presque le hasard. En fait, mon mari et moi, on a eu tous les deux une opportunité au même moment. Et c'est là que je suis arrivée au LAM et donc dans le spatial. Mais ce n'était pas forcément une idée initiale. Par okay. contre, le domaine est très, très intéressant. Donc, du coup, j'avoue que j'y suis restée assez longtemps et j'aurais pu y rester encore plus, je pense.
Moi, j'ai voulu travailler en astronomie. Alors après, l'espace, forcément, parce qu'on fait de l'astronomie, donc on regarde l'espace. Après, moi, j'étais plus intéressée par les instruments au sol, en fait. C'est là que j'ai commencé d'ailleurs, je suis plutôt arrivée par la partie instrumentale pour les télescopes au sol et pas les télescopes spatiaux. Les télescopes spatiaux, c'est ma première expérience avec Euclide. C'était une passion de jeune en fait, j'aimais l'astronomie et je voulais trouver un métier un peu appliqué. Je ne me voyais pas astronome à pondre des théories, j'avais plutôt ce côté plutôt pratique, mettre les mains dedans. Donc le côté ingénieur m'allait très bien. Et du coup, travailler pour l'astronomie, j'ai eu de la chance qu'au fur et à mesure, j'ai eu des opportunités qui m'ont amenée jusqu'au LAM. J'ai eu une lunette, je l'ai toujours. Et bon, ça a commencé comme ça, ouais, c'est ces aspects-là. Ouais. On voit Saturne, c'est méga impressionnant de voir Saturne avec les anneaux, ça c'est vraiment magique. Tout le reste, c'est des petits points où après on peut voir quelques nuages, certaines nébuleuses, on peut les voir, mais il faut quand même déjà des plus gros télescopes, donc c'est plus difficile avec une petite lunette. Et puis c'est très vaporeux, donc il faut vraiment qu'il fasse bien noir, qu'on soit bien habitué et qu'on sache ce qu'on cherche en fait. Par contre, on peut quand même, quand on connaît, on peut voir des petites choses. Mais le plus impressionnant pour moi, c'est Saturne et la Lune.
Et
après, la Lune, ouais, ça, c'est toujours magique. Mais on la voit bien de l'œil nu aussi, donc c'est différent. On a l'impression de la toucher quand même. C'est magique aussi.
Depuis toute petite, mais vraiment petite, depuis l'âge de 6-7 ans, je travaillais dans l'astrophysique. Être astrophysicien, j'ai découvert que ça voulait dire être pas mal derrière un PC. Donc j'ai réorienté mes études plus sur le côté instrumentation, parce que, comme Anne encore, je préférais avoir une grosse partie de mon travail où je faisais des choses avec mes mains. Et j'ai fait un master professionnel qui s'appelle Outils et systèmes de l'astronomie et de l'espace. Je fais de la petite pub à l'Observatoire de Paris. Moi j'ai commencé sur un projet ballon stratosphérique. Donc c'est un peu intermédiaire entre le sol et l'espace. Ça part à 40 km d'altitude sous un énorme ballon gonflé d'hélium. Et puis maintenant plus sur le spatial. Et on va en L2.
Actuellement, je suis à la fois en train de travailler sur Euclide et sur un autre projet, donc ça a pris beaucoup de temps. Mais c'est pas le projet d'une vie, en fait. Enfin, moi, ça a pris 6-7 ans, ce qui est beaucoup. Mais c'est pas... Enfin, il y en aura peut-être d'autres derrière, en fait. Et pour l'instant, c'est pas le projet de ma vie, je pense pas. Et mais par contre, c'est bien. Voilà, là, je m'y remets, là, en ce moment. Du coup, par défaut. Mais non, les grises m'ont pris beaucoup de temps. Les tests optiques vont être un peu différents. C'est pas du tout la même approche de travail, donc on verra comment ça se passe. Et puis normalement, si tout va bien en fin d'année, pour nous, c'est terminé, donc on passe à autre chose.
On attend quand même, évidemment, le décollage. Et puis, voilà, enfin, en tout cas, on sera, si ce n'est présente, au moins au courant, quoi. On écoutera, on regardera. On...
Bah pour moi, Euclide, oui, c'est encore bien présent. C'est à peu près 50% de mon temps de travail encore, là. Pour tout ce qui est mesure de vérification du simulateur de télescope, d'une part. Parce qu'en fait, le télescope du satellite, on ne l'a pas. On ne l'a pas parce qu'il est fait par un industriel. Okay. Mais nous, il faut qu'on valide notre instrument. Donc on a ce qu'on appelle un simulateur de télescope. Il faut lui-même le connaître, donc le caractériser... pour être sûr qu'il nous servira comme il faut à valider notre instrument. Donc moi, je travaille là-dessus, sous la supervision de Anne toujours, et sur les tests finaux. Donc il y a beaucoup de mesures de ce télescope et de l'instrument qui sont dans la cuve. Et nous, on a des outils qui nous permettent de voir de l'extérieur où est-ce qu'ils sont et de mesurer précisément... s'il bouge entre la température ambiante et le froid, etc. Donc ça aussi, c'est beaucoup de mesures et de documentation.
Est-ce que vous avez un souvenir ?
On était au modèle de qualification, si je me souviens bien. Ils nous ont dit, ah bah finalement, il y a un petit souci au niveau des détecteurs, on va dire, il y a trop de lumière parasite, il faut mettre un baffle sur le grisement. Et aussi sur les filtres et sur les autres composants, on va dire aussi. Mais... Et bah c'était pas prévu au départ. Et donc sur un composant, on va dire, mécanique, du coup, enfin pour le coup, il fallait qu'on le fixe quelque part, donc on pouvait le fixer que sur la mécanique, c'est interdiction de toucher l'optique, qui avait plein de trous, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il fallait l'alléger, il fallait qu'on mette un baffle et le tenir par l'opération du Saint-Esprit, entre guillemets, quoi. Donc on s'est un petit peu amusé parce qu'on n'avait pas la place, on n'avait pas la masse. C'est-à-dire qu'ils nous ont obligés à mettre un baffle sans nous ajouter de masse supplémentaire dans nos spécifications et de place supplémentaire pour pouvoir le tenir, quoi. Positionner sur la roue notre grisme sans ce baffle, on avait, je sais plus, 3-4 mm d'écart. Ouais. Et avec le baffle, ben, il faut mettre des vis, quoi. Et donc les têtes de vis, ça prend de la place, l'épaisseur du baffle aussi. Enfin, donc on a un petit peu... On n'a pas galéré, mais
on a trouvé les vis. Ouais.
Voilà. Oui, c'est vrai. Pour les vis, on a eu des petits soucis. Ça taille 2 mm de diamètre, grosso modo. Voilà. Voilà. Donc okay. Ça fait tout petit. Et puis, il fallait que ce soit des vis qualifiées spatiales.
Avec une hauteur de tête.
Très fine, puisqu'il fallait justement pas prendre trop de place pour pas venir toucher la roue sur laquelle on se fixe. Interdiction. Enfin, ouais, on s'est amusé.
Et pour l'intégrer aussi, la
production. Oui, aussi,
c'est moi qui
l'ai
fait,
vrai.
Donc.
Ouais. Ouais, non, ça, j'avoue
c'était
que.
C'était très minutieux comme travail. Je ne faisais pas ça les jours où j'étais un petit peu énervée.
Ah non, pour le problème des. Moi, c'est ça, ouais. C'est peut-être la première fois que j'ai réalisé qu'on avait un composant qui allait aller dans l'espace et que s'il se passait un problème, ça serait la cata. C'est qu'effectivement, pour ce composant-là, le modèle de Calif, on fait les vibrations avec le baffle et on a trois vis qui se dévissent. Alors, elles se dévissent, elles partent pas dans
elles
tous
sont
les
pas
sens.
Parties,
hein.
Ouais.
Et c'est vrai qu'elles se sont légèrement dévissées, elles voilà. Sont plus hautes que les autres sur les neuf. Donc là, ça pose problème quand même, parce que du coup, on arrête tout.
Branle bas de combat général.
Qu'est-ce qu'on fait ? Et puis effectivement, on réalise si ça se passe en vol. Bon, là, heureusement, les vis sont restées en place, mais si on a une qui part, il n'y a plus de mission, quoi.
C'était 3 sur 12. Hein.
Ouais, c'était donc, 3 sur 12.
Bon, et là, il tenait encore le baffle, mais par contre, effectivement, si une vis s'en va et vient cogner, entre guillemets, l'optique pendant le décollage, je ne suis pas sûre que les opticiens soient très contents, quoi. Donc ouais,
c'était de ma faute.
On sait pas.
On sait probablement.
Ouais.
Peut-être une
on avait une procédure de serrage en croix. Donc on serre pas tout, toutes les vis, il y avait 12 vis quand même. Donc on ne serre pas les vis les unes à côté des autres à la suite parce qu'on risque de contraindre le baffle, l'épaisseur à
0,5 mm,
non, c'est extrêmement fin, donc il ne fallait pas le vriller ou quoi. Oui. Donc on faisait 3 vis à 120 degrés, puis les 3 autres, puis les 3 autres. Et on serre d'abord à la moitié de la force requise, puis on repasse dessus pour faire le serrage final.
Et une procédure.
Je pense que le problème qu'il y a eu, c'est que j'ai raté les 3 dernières, en fait. Je me suis dit, ok, j'ai tout fait, et j'ai raté les 3 dernières, donc elles se sont dévissées, puisqu'elles étaient vissées qu'à la moitié.
Ouais,
bon on était deux dans la salle. Bon, moi, je sais pas.
Oui, puis enfin, c'est ça. De toute façon, le but du jeu, c'était pas de trouver le coupable, c'était surtout résoudre le problème. Et en l'occurrence, après coup, le chef de projet CNES local, Olam, nous a dit « Oui, mais de toute façon, pour un projet spatial, les vis M2 qu'on peut souvent rencontrer dans les composants électroniques, par exemple, on les colle. On ne fait pas que les visser, on les colle aussi. » Donc, on a collé.
Donc, on a collé. Bon, après, là, du coup, on avait ceinture et bretelles. Quoi.
Voilà, c'est ça. Ça. Mais ça a tenu. Enfin,
ça tient.
En tout cas, pour l'instant, ça tient, quoi.
Euclide, le métier à tisser l'univers, donne la parole au personnel du CNRS, d'Aix-Marseille Université et du CNES, impliqués dans la réalisation du spectrophotomètre infrarouge Grand Champ, également appelé NISP, l'un des deux instruments embarqués de la mission spatiale Euclide de l'Agence spatiale européenne. Les chercheurs et ingénieurs que vous entendez ici travaillent principalement au laboratoire d'astrophysique de Marseille et au Centre de physique des particules de Marseille. Cette série d'émissions a bénéficié du soutien du CNRS, d'Aix-Marseille Université, du CNES et du LabEx au CEVU.
Quand j'étais petit, je passais mes étés dans la Drôme et je m'allongeais dehors, je regardais la voûte céleste. Et ouais, j'avais une sensation de vertige. Tomber dans la voûte céleste.
Les deux derniers tests montrent que l'instrument est plus performant que prévu. Là, on l'a envoyé au centre spatial de Liège et il revient chez nous. On le remesure, on vérifie que rien n'a bougé et ensuite on le met sous vide thermique, donc à moins de 200 degrés, et on regarde que tout se passe bien.
Premières images.
Ouais, premières images.
Euclide.
On est tout petit.
On essaye de peser l'univers.
Le métier à tisser l'univers.
On est tout et rien dans l'univers. On est la chose la plus avancée que l'on connaisse de l'univers. Donc quelque chose qui nous dépasse complètement.
Comme